Semaine du 24 octobre 2011, bienvenue à la cinquième édition de Soccer Plus. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant. Je reviens d'une fin de semaine avec des amis à Mont-Laurier, dans les Laurentides, où il faisait un temps magnifique et vraiment une belle fin de semaine, très reposante. Et je réalisais qu'on n'est seulement qu'à 2 mois du temps des fêtes, mais on n'attendra pas 2 mois avant de vous offrir des cadeaux ici à Soccer Plus, puisqu'on a une entrevue exclusive avec le nouveau président élu de la Fédération de soccer du Québec, M. Martial Prudhomme. On ira au Mexique aussi pour parler de l'équipe canadienne aux Jeux panaméricains avec Marc Touga. Sophie Drolet aussi nous offrira son analyse du rendement de l'équipe canadienne jusqu'à maintenant dans ce tournoi. Avec Mathias Van Alst, on parlera d'une saison morte qui sera loin d'être morte pour les clubs canadiens de la MLS. Mais avant, on va jeter un coup d'œil sur les séries éliminatoires de la MLS qui démarrent cette semaine. Les séries éliminatoires de la MLS démarrent cette semaine et une des 10 équipes qualifiées pour ces séries, c'est le Dynamo de Houston, dont fait partie l'international canadien André Hainaut, qu'on a rejoint à Houston. Bonsoir André.
Bonsoir.
La saison d'abord du Dynamo de Houston a commencé un peu, ça a été un peu difficile, mais vous êtes bien relevé et vous avez connu une bonne saison, somme toute.
Oui, c'était une saison avec des hauts et des bas, mais on s'est toujours resté en position où on était capable de prendre une place dans les séries, puis... C'est ça qu'on a fait, puis heureusement, on a terminé bien. On a eu nos victoires à l'extérieur ou sur la route, comme ça se dit. Et on a pris les points à la maison. Fait qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, puis on s'est mis en bonne position. Puis hier, finalement, on s'est assuré une place dans les séries. Fait que ça a bien été. Puis on espère que même avec la saison sorte moyenne, on peut dire qu'on va bien être en bonne forme pour débuter les séries, puis vraiment sorte pic ou avoir notre meilleure forme dans la prochaine mois.
Qui ou qu'est-ce qui a fait la grande différence entre l'année 2010 et l'année 2011 chez vous?
On a changé plusieurs joueurs après la saison. Beaucoup de jeunes joueurs, je crois les joueurs qui pas les je dirais pas des vétérans parce qu'on a pas beaucoup de vétérans sur notre équipe, mais les jeunes de 25 à 30 ans, ils ont pris un peu plus de responsabilités. L'entraîneur Dominique cette année, l'année passée était dur pour lui parce qu'il était pas habitué à perdre comme ça. Fait que cette saison, je crois, il s'est pas calmé un peu, mais il a appris la saison passée, puis juste l'équipe était plus mature. On s'est pris ça calme, on s'est pas stressé trop quand ça allait pas bon, puis on n'était pas trop haut quand ça allait bien. Fait qu'on a gardé ça calme, on s'est gardé en position où on était capable d'être où la place on voulait à la fin de saison. Fait que c'est bien, on a bien juré la saison, on peut dire.
Parle-moi du gardien de but, Tally Hall. Il y a beaucoup de gens qui parlent de lui comme un des prochains grands gardiens aux États-Unis. Tu l'as vu grandir de la première à la deuxième saison. Parle-nous de ce gardien.
Tally, je le connais très bien. C'est mon roommate. Ça fait qu'on est ensemble souvent. On s'entend vraiment bien. Et je suis content pour lui et je suis pas surpris. Il était un gardien une bonne attitude. Il travaille fort. C'est un leader aussi. Il aime ça sort diriger, mais il est prêt à écouter aussi. Et l'année passée, même avec être deuxième gardien derrière Pat Anstead, qui est vraiment un légende dans l'équipe et dans la ligue, il était toujours prêt quand c'était son tour durant les matchs de Superliga ou n'importe quand. Puis même s'il n'avait pas beaucoup d'expérience ou ça faisait un bout de temps qu'il n'a pas joué, il est rentré et puis il a joué son jeu, il a fait son match et cette saison, c'était vraiment grand pour lui, pour être le gardien partant. Puis tout de suite, la saison a commencé, il faisait son chose, il gardait sa calme. Puis c'est ça, il faisait ce qu'il avait à faire, il baissait la tête, il travaillait fort, puis ça a bien été pour lui. Fait que ça me surprend pas, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, une bonne attitude, puis ça me surprendrait pas de le voir dans l'équipe nationale, avoir un camp, une chance avec eux. Fait que, voyez, c'est bien.
Tu as même l'avantage, quand vous allez les affronter avec l'équipe canadienne, de pouvoir connaître ses points faibles. Alors, ça sera toujours un avantage pour nous à ce chapitre-là. J'aimerais que tu me parles de Will Brune aussi, qui a été un choix de première ronde au repêchage. C'est un autre des joueurs qui a beaucoup grandi en 2011.
Oui, Will, il y avait quelque chose un peu différent des autres rookies ou des autres jeunes qu'on avait cette saison. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé fort durant la pré-saison. Il a bien fait durant la pré-saison. Une sortie, il s'est gagné une place. C'est ça, la saison a débuté. Il y a eu ses buts de bonheur. Et pas de bonheur, mais il y a eu des buts pour débuter la saison. Fait que ça s'est calmé. Ça a pris, ça a enlevé de la pression qu'il y avait sur lui. Ou je sais pas qu'est-ce qui comment on peut expliquer ça, mais ensuite de ça, il y avait des blessures, mais c'est quelqu'un que Dorman, puis c'est un attaquant qui est très facile à aimer, ça veut dire parce que c'est un gros gars, il est fort, mais il y a beaucoup de vitesse aussi, c'est décevant, des fois tu regardes son stature ou son physique, puis tu n'apprends pas qu'il va être vite ou peut aller vite comme il peut. Puis, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille vraiment fort. Il baisse sa tête, il fait ce qu'il y a à faire. Puis, c'est un bon. He's a good finisher. Il s'est marqué. Donc, c'est un de nos jeunes qui a bien fait cette saison.
Vous allez jouer contre Philadelphie en demi-finale de l'Est. C'est une équipe contre qui vous êtes capable de vous battre, vous êtes capable de rivaliser. C'est une équipe qui est à votre portée?
Ouais, nous, je crois que c'est une bonne match-up pour nous. C'est une équipe que, oui, on avait, je dirais pas de la misère cette saison, mais là, on a débuté la saison contre eux, c'est à la maison, puis c'était un match où je trouve qu'on a, je dirais pas on a bien joué, mais on a bien fait sur certains points, mais on pouvait pas marquer, on pouvait pas créer la passe décisive ou il manquait un petit quelque chose, puis eux, ils ont eu leur chance, ils ont marqué, puis c'était ça, ils nous ont frustrés, et ensuite, à Philadelphie, c'était un peu ça, on a bien joué encore, eux, ils ont marqué, ils nous ont frustrés, mais finalement, on a pris un but dans les dernières 5 minutes pour égaliser, mais je dirais que c'est une équipe que sur 2 matchs et 180 minutes, ou qu'est-ce que c'est, c'est une équipe qu'on peut battre. Fait que, on a gagné notre match hier. Là, on a une saison, une semaine d'entraînement, puis on va regarder ça. On va parler des points où on peut les faire mal, puis où on doit faire attention. Fait que c'est un match-up que je pense que moi, puis le reste d'équipe, c'est une équipe qu'on peut battre sur 2 matchs.
Qu'est-ce qui va faire en sorte que Houston va se rendre jusqu'au bout et remporter de la Coupe de la MLS?
On a besoin de garder la forme qu'on a durant les derniers 2-3 matchs. Et c'est comme chaque MLS Cup, tu dois, you have to peak, tu sais, tu as vraiment trouvé ton 6e vitesse ou je sais pas, ton meilleur forme là, durant 7 mois. Et on fait des choses bien, mais il y a encore des petites erreurs qu'on doit régler, des petites choses qu'on peut faire mieux. Et si on peut faire ça, on a un peu de chance. Tout peut arriver, puis ça ne me surprendrait pas de nous voir en finale de la MLS Cup.
En terminant, André, tu sais que depuis que Montréal a été annoncé comme 19e club dans la Ligue, est-ce que les autres joueurs te posent des questions sur Montréal, qui veulent en savoir plus sur cette ville-là?
Oui, non, c'est sûr. Je me souviens même, ça fait 2 saisons qu'à Montréal, ils avaient un match dans le Champions League et ils avaient une foule de, je crois, 60 000 au Stade Olympique. Ils étaient un peu surpris, ils me demandaient des questions. C'est comme ça, le soccer à Montréal, c'est populaire et... Et maintenant, avec Montréal dans la Ligue la saison prochaine, avec, ils savent, la famille Saputo, ils savent, ça, maintenant, il y a Jesse Marsh comme entraîneur, c'est sûr, il veut en savoir plus. Je lui dis tout le temps que Montréal, c'est la ville la plus belle en Amérique du Nord ou au monde. Et fait, il veut les filles, puis la culture, ou je sais pas quoi. Mais c'est sûr, il me demande plus souvent des questions sur Montréal. C'est sûr, ça. Ils sont intéressés, puis ils sont excités aussi dans la saison prochaine de visiter la ville, puis ça. Fait que c'est intéressant.
C'est sûr qu'on peut veiller un peu plus tard à Montréal qu'à Columbus, par exemple.
Ça, c'est sûr.
André, bonne chance contre Philadelphie. On te surveille et à bientôt. Au plaisir de se reparler.
D'accord, merci beaucoup.
André Henault, qui est porte-couleur du Dynamo de Houston, qui entreprend les séries éliminatoires en MLS.
That's in! From Andre Haino. And against the run of play, the Houston Dynamo with a big time goal.
Celui qu'on vient d'entendre, c'est John Strong, le descripteur à la télévision des matchs des Timbers de Portland qui accueillait le Dynamo de Houston. C'était le 14 octobre. Et c'est la description du but de Andrew Heno cette saison dans la victoire de 2-0 du Dynamo de Houston sur les Timbers de Portland. Pour décortiquer maintenant ce qui s'en vient en séries éliminatoires de la MLS, allons rejoindre le 12e joueur, notre blogueur par excellence, Yvan Delia La Victoire. Salut Yvan.
Salut, ça va bien?
Très, très bien. Alors, on commence d'abord avec ce qu'on appelle le quatrième as ou le wild card, pour reprendre l'expression anglaise. Et il y a donc les équipes qui n'ont pas terminé parmi les trois premières de leur conférence qui doivent d'abord passer par ce premier tour éliminatoire.
Exactement. Écoute, c'est quatre équipes. Si on regarde au niveau du premier match de wild card qui commencera dès mercredi, on a le FC Dallas, l'un des finalistes de l'édition 2010 de la MLS Cup, contre le New York Red Bulls de Thierry Henry, de Rafa Márquez. Leur seul affrontement en série, bon, c'était sûr que c'était pas ni le FC Dallas, ni le New York Red Bulls, mais plutôt le Metro Stars et le Dallas Burn, qui s'étaient disputés les quarts de finale de l'année 2000. Du côté, bon, cette année-là, c'était le Metro Stars qui l'avait remporté. Sinon, après ça, il n'y a pas vraiment eu d'affrontement entre les deux équipes. Maintenant, au niveau de la saison 2011, les deux équipes, c'est le New York Red Bulls qui a eu le déçu avec un match nul premièrement de 2-2 entre les deux équipes, puis une victoire à Dallas en septembre.
Il faut voir que sur la route aussi, les Red Bulls de New York, cette saison, ça n'a pas été extra à leurs 14 dernières rencontres sur la route. Une seule victoire, mais c'était contre Dallas.
Exactement. Et même du côté de Dallas, si on regarde leur fiche à domicile, ils n'ont qu'une victoire en 7 matchs, toutes compétitions confondues.
Il n'y a pas vraiment de tendance qui dise d'un sens ou de l'autre qui pourrait gagner. Et d'ailleurs, Dallas n'a pas gagné depuis juillet 2009 contre New York. Deux défaites et deux matchs nuls entre ces deux équipes. Et la dernière victoire à Dallas à domicile contre New York, ça remonte au 4 juillet 2009, où un certain Jeff Cunningham, qui est maintenant membre du Crew de Columbus, si je ne me trompe pas, avait marqué les deux buts de son équipe. Et de l'autre côté, c'était Juan Pablo Angel qui avait répliqué pour New York, qui est maintenant membre de Chivas USA.
Bon, c'est la deuxième année consécutive que les deux équipes s'affronteront, si tu veux, dans la première ronde des séries. L'année passée, Colorado avait eu le dessus sur le Crew après une séance de tir de barrage au match retour. On se rappelle tous que bon, le Rapids bon, avait remporté cette séance de tir de pénalité-là aussi, mais s'était rendu en finale pour battre le FC Dallas en temps supplémentaire à Toronto l'année passée.
Dans un match où il a fait froid, oh mes amis, ils ne sont pas prêts de revenir pour un match extérieur au Canada, la MLS, je peux vous dire. J'étais au stade là-bas et les gens, les commentaires à la mi-temps et à l'après-match. D'ailleurs, le stade n'avait pas été plein à Toronto. Hein. Autre preuve que c'est pas Toronto la capitale du soccer en Amérique du Nord.
On va voir pour Montréal l'année prochaine.
Et Colorado, à domicile, ça va bien dans les 14 derniers matchs. Je crois une seule défaite à domicile, alors que Columbus, sur la route, n'a gagné qu'un de ses 6 derniers matchs.
Et Columbus n'a pas gagné à Colorado depuis 2009 aussi.
Oui, en août, ça fait 3 matchs là, donc qu'ils perdent de suite. Bon, ce qui se passe après avec ces équipes-là, là, c'est là que ça se corse un peu au niveau là, de la simplicité, de façon ironique que je le dis bien sûr, du processus, à savoir si on gagne, qui se retrouve contre qui dans la ronde suivante qui sera, bon, la demi-finale de l'Est et de l'Ouest.
Pour le duel du FC Dallas contre New York, le gagnant de ce match-là va soit affronter le Sporting Kansas City ou le Galaxy. Donc, si tu veux, je vais résumer ça. Si le FC Dallas gagne, il va jouer contre le Sporting Kansas City, mais si le Red Bull gagne, il va jouer contre le Galaxy en demi-finale de conférence de l'Ouest.
Imaginez une demi-finale Los Angeles, New York, disons que ça serait très, très bon pour la MLS au niveau là, des cotes d'écoute télévisuelle.
Exact.
Et de l'autre côté, donc, c'est on dépendra là, donc, des résultats de l'autre match de première ronde.
C'est ça. Dans le fond, si New York gagne, il va jouer contre le Galaxy, ce qui veut donc dire que ça va être le gagnant de Colorado-Columbus qui va affronter Sporting Kansas City.
Et donc, vice-versa, si Dallas gagne, joue contre Kansas City et Columbus-Colorado contre Los Angeles, qui serait peut-être un peu moins étincelant, mais surveillez bien Kansas City. Surveillez bien Kansas City, j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir des séries éliminatoires assez intéressantes. Passons tout de suite, puisque ça sera avant notre prochaine balado-diffusion. Les demi-finales démarreront le week-end prochain. Et il y a notamment le Québécois Andrew Hainaut qui est en action dès le week-end prochain avec le Dynamo de Houston.
Oui, c'est ça, exactement. Le Dynamo de Houston va affronter le Philadelphie, le Union de Philadelphie, qui en sera à sa première participation aux séries. Bon, il n'y a pas vraiment de statistiques de séries, si tu veux, entre ces deux équipes-là, mais en saison régulière, Philadelphie a eu le dessus sur Dynamo au cours des deux dernières saisons. Il y a eu 2 victoires sur la route et 2 matchs nuls au PPL Park de Philadelphie.
Et l'autre implique le Canadien Will Johnson et le Real Salt Lake.
Oui, c'est ça. Écoute, le Real Salt Lake, après, bon, si tu veux, un début en MLS difficile, a accédé aux séries au cours des 4 dernières saisons, alors que du côté des Sounders, ils l'ont fait à leurs 3 premières saisons à MLS. C'est très bien, le Real Salt Lake est un ancien champion de la MLS Cup de l'édition 2009, alors qu'il avait remporté la finale contre le Galaxy en tir de pénalité. Au niveau des séries, bon, les deux ne sont pas affrontés en série, et cette saison, les deux se sont échangés, si tu veux, les victoires. Du côté de Seattle, ils avaient mis fin à une séquence de 29 matchs à domicile sans défaite pour le Real Salt Lake en les battant 2-1 en mai. Et plus récemment, si tu veux, Salt Lake avait fait la même chose, mais en battant Seattle 2-1 au Coors Field.
Et là, je vais te demander, Yvan, d'y aller avec la très ingrate tâche d'y aller de tes prédictions pour ces séries éliminatoires, là, du moins des séries okay. qu'on a parlé jusqu'à maintenant.
Ouais, bon, si on regarde du côté du wild card, FC Dallas contre New York, moi, je vais y aller avec une victoire du Red Bull. C'est sûr que, bon, ils n'ont pas vraiment de victoire sur la route, mais comme tu le disais, bon, leur seule victoire... où l'une des rares victoires sur la route a été contre Dallas. Maintenant, du côté du Colorado-Columbus, selon moi, je pense que le Colorado aura eu le dessus sur le Crew. Après ça, si on regarde maintenant en demi-finale, Philadelphie-Houston, ça risque d'être pas mal difficile. Je vais y aller avec Philadelphie.
T'as raison, parce que c'est vraiment une des séries les plus difficiles à jauger. Ces deux équipes qui n'ont pas très bien fait l'an passé. Philadelphie à sa première saison, Houston c'était l'enfer vraiment l'an passé. Et cette année, c'est un rebondissement peut-être un peu moins prononcé du côté de Houston, mais quand même, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel avec un excellent gardien de but. Et Philadelphie aussi bâti avec son gardien. Et Sébastien Letout qui a explosé en fin de saison.
Ben c'est ça. Puis si on regarde l'historique, si tu veux, même du Houston... du Dynamo plutôt, ça a été l'une des deux équipes même à remporter la MLS Cup 2 années consécutives.
Ils avaient un élément au sein de leur alignement qui s'appelait Dwayne De Rosario lors de ces années-là et qui n'est plus à Houston.
Non, puis ça va manquer aux séries, je pense, Dwayne De Rosario. Puis dans le fond, l'autre équipe qui avait réalisé l'exploit, si tu veux, en 96-97, c'était un certain DC United qui avait un monsieur qui s'appelait Jesse Marsh. Intéressant. Mais du côté, bon, je vais aller avec Philadelphie, comme je dis. Si on regarde maintenant la conférence de l'Ouest, les demi-finales, bon, Seattle, Real Salt Lake, ça aussi, ça m'a l'air assez équilibré. Mais je vais y aller avec une victoire de Seattle là, sur 2 matchs, dans le fond. Là.
On surveille ça, on s'en reparle certainement la semaine prochaine. On va suivre le progrès de cette compétition avec grand intérêt, puisque l'impact y sera l'an prochain, du moins en saison régulière. On verra pour les séries éliminatoires, une étape à la fois. Et Yvan, une autre chose qui ressort de tout ça, c'est le fameux processus d'appeler ça conférence de l'Est, conférence de l'Ouest. Toi, c'était ton choix. Je pense qu'on ferait revoler tout ça, puis on irait avec une table, ce qu'on appelle le single table en anglais, là, et donc un classement unique, et on y va de 1 à 10, puis on appelle ça demi-finale, point, mais pas finale de l'Est et finale de l'Ouest.
Non, c'est ça, exactement. Moi, j'irais avec une table, un classement général, parce que même si on regarde au niveau du wildcard, je veux dire, on l'a appliqué, cette méthode-là. Fait que ça serait pas très difficile, si tu veux, de faire un classement général puis de prendre, comme tu dis, les 10 premiers, ou l'année prochaine, on va sûrement faire la même méthode. Là.
À suivre, ça sera sûrement encore une fois l'objet de vives discussions lors du week-end de la Coupe de la MLS à Los Angeles à la mi-novembre. Merci, Yvan. On se retrouve la semaine prochaine.
Ben oui, à la semaine prochaine.
Cette semaine, dans le monde du soccer.
Joao Plata marque 2 buts et il en prépare un 3e alors que le Toronto FC bat le FC Dallas pour accéder au quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le club mexicain de Monterrey en mars 2012. Dernier week-end de la saison régulière en MLS. Toronto a conclu sa campagne en faisant match nul 2-2 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, une autre équipe qui n'est pas qualifiée pour les séries éliminatoires. Danny Coverman a marqué son 8e but en 10 matchs avec les Reds pour créer l'égalité. Les Whitecaps de Vancouver ont été doublés 2-1 par les Rapids du Colorado devant 21 000 spectateurs au BC Place. Le Suisse d'origine québécoise Alain Rocha a marqué son 3e but de la saison dans une cause perdante. Le Dynamo de Houston et André Hainaut se sont assurés de la 2e position dans leur conférence de l'Est en l'emportant 3-1 sur une équipe du Galaxy de Los Angeles remplie de réservistes. Le Canadien Dwayne DeRosario a remporté son premier soulier d'or comme meilleur buteur de la MLS avec 16 buts. Rappelons que DeRosario est aussi passé par Toronto et New York cette saison.
On arrive du côté des clubs professionnels canadiens à la saison morte, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de mort à la saison morte cette année. Pour en parler, allons rejoindre mon ami Mathias Van Alst. Comment ça va, Mathias?
Bonjour à tous, ça va très bien.
Passez une belle fin de semaine encore une fois.
Oui.
Ah, les fins de semaine qui se suivent, ils se ressemblent, c'est bon signe. Mathias, tout d'abord du côté du Toronto FC, une victoire agréablement surprenante.
Oui, une victoire 0-3 à Dallas lors du match de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. C'était une victoire obligatoire pour Toronto parce qu'en cas de succès, ils passaient en quart de finale de cette compétition, un stade des quarts de finale qu'on connaît bien ici à Montréal puisque l'Impact l'a atteint il y a quelques années. Et donc, cette fois, c'est au tour de Toronto de faire honneur au soccer canadien.
C'est drôle dans un certain sens parce qu'on en parlait tout juste avant d'entreprendre cette conversation. Comment le Toronto FC avait des signes avant-coureurs possibles de succès dans ce genre de compétition-là?
On voyait au cours de la saison en MLS et au cours des matchs précédents de cette Ligue des champions que cette équipe de Toronto était en progrès. Ceux qui se souviennent, ceux qui ont regardé le premier match de la saison en MLS entre Vancouver et Toronto, qui se disaient « Oh là là, cette équipe ne va nulle part ». On se souvient qu'Aaron Winter a dit « Attendez, moi j'ai besoin de 5 ans pour construire quelque chose », mais on voit qu'il construit déjà quelques trucs intéressants. Et on voit au fil des semaines qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et là, on a un résultat concret par une qualification quand même pour les quarts de finale d'une compétition continentale. Et la victoire à Dallas, honnêtement, a été très convaincante. Bon, Dallas a assez mal joué, a été mauvais, mais Toronto a fait vraiment ce qu'il fallait. On a vu des progrès dans la mise en place de la défense. Et côté offensif aussi, le réalisme d'un Coverman, par exemple, est très intéressant. Et l'apport d'un Plata aussi.
Et de l'autre côté, c'était chronique d'une mort annoncée pour le FC Dallas qui a connu une fin de saison absolument horrible. Du côté de l'Impact de Montréal, il y a plusieurs étapes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on va en parler avec toi, Mathias. D'abord, ce fameux repêchage d'expansion qui aura lieu quelques jours après la finale de la Coupe de la MLS.
Oui, alors pour le moment, on le sait, l'Impact a seulement 3 joueurs dans son effectif. Et la MLS donne une chance à toutes les nouvelles équipes d'aller chercher des joueurs qui sont déjà en MLS. Donc, ce qui va se passer, c'est que toutes les formations de MLS, elles sont 18, peuvent protéger 11 joueurs. Après, il y a des détails, un petit peu des spécificités dans les règlements concernant les joueurs formés au club, les joueurs désignés, etc. J'entrerai pas dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est de retenir que chaque club protège 11 joueurs et que l'Impact peut aller chercher un joueur par club, mais un maximum de 10 joueurs. Donc, tout d'un coup, l'effectif va passer de 3 à 13, et ça, ce sera quelque chose déjà d'intéressant.
Toujours intéressant, parce que je me rappelle quand il y a eu la fameuse rencontre technique avec Matt Jordan et Nick DeSantis, on nous avait parlé qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait plus de 3, peut-être 4 joueurs qui ressortent de ce processus de repêchage d'expansion et qui seront vraiment là, dans les cadres lorsque le premier match sera en cours là, au début du printemps 2012.
Oui, parce que, évidemment, les meilleurs joueurs de chacune des équipes vont être protégés. Après, il faut évidemment que Nick DeSantis et Matt Jordan aient le nez fin pour sentir les joueurs qui ont beaucoup de potentiel et surtout qui pourront se développer à Montréal, qui pourront faire quelque chose dans le style de jeu, dans la philosophie qu'ils vont développer et que Jesse Marsh va développer. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, si ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en MLS, forcément, c'est peut-être parce que ce ne sont pas des titulaires en puissance. Donc, il faut vraiment trouver les bons joueurs pour les bonnes places. Mais ce n'est pas là qu'on va construire l'ossature complète de l'équipe, c'est une certitude aussi.
Ensuite de ça, il y a un repêchage qu'on qualifie de repêchage, entre guillemets, de repêchage ordinaire ou de repêchage normal. Et ces joueurs-là, qui sont-ils, ces joueurs qui sont disponibles pour ce deuxième repêchage?
Ben, en fait, c'est les joueurs dont les autres équipes de MLS ne veulent plus, qui sont en fin de contrat. Et donc, ben, ils ont une deuxième chance. Ils ont une chance d'être repêchés par tous les autres clubs de MLS. Là, l'Impact n'est plus seul en jeu. Et il y aura deux tours à ce repêchage. Donc, à ce moment-là, tous les joueurs qui sont en fin de contrat et qui répondent de nouveau à des critères particuliers selon l'âge et le nombre d'années qu'ils ont d'expérience en MLS seront disponibles. Et puis, chaque club à son tour, dans l'ordre inverse du classement, pour aller en repêcher un et l'amener dans son effectif. Et à ce moment-là, ben, il va commencer à y avoir des négociations. Ça, pour l'Impact, contrairement à l'autre... séance de recrutement dont on parlera après, l'Impact sera le dernier à choisir, donc il sera 19e, et de nouveau, il faut avoir fait ses devoirs, il faut savoir qui est sans contrat, ou quels sont les joueurs dont l'option se termine et n'a pas été levée par le club, et qui vont être à ce moment-là disponibles. Parfois, il y a moyen de faire de bonnes opérations, de trouver de bons joueurs, mais avec le 19e choix, ça va être un petit peu plus difficile d'aller chercher des cadres, évidemment, dans le cas de l'Impact cette fois-ci.
Et on pourrait comparer cela, parce qu'il n'y a pas de comparatif dans aucun sport à cet exercice-là, mais ça se rapproche au marché des agents libres qu'on voit dans les autres sports majeurs nord-américains. Ça, c'est au mois de décembre, si je ne me trompe pas, Mathias, c'est bien ça?
Oui, ça va se passer en deux étapes. Une première étape le 5 décembre, donc ça, ce sera le premier tour de ce repêchage. Et la deuxième étape, le 12 décembre, ça laissera aussi un petit peu de temps aux joueurs et au club pour discuter entre-temps.
Oui, parce qu'il y a un jeu de négociation qui se fait là-dedans.
Oui, ça. Allez voir les communiqués qui ont été envoyés cette semaine par la MLS. Il y a une petite explication des règlements et des détails de ça parce que c'est impossible à résumer dans le temps qui nous est imparti.
Suite à cela, il y aura ce qu'on attend au mois de janvier. Ça sera à Kansas City et c'est ce que la MLS a baptisé le Super Draft. Parle-nous-en, Mathias.
Oui, alors, le Super Draft ou la Super Draft, c'est un peu comme vous voulez. Finalement, ça suit... ce que les MLS appellent son évaluation annuelle des espoirs, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes joueurs de talent qui, pour la plupart, évoluent dans des équipes d'université américaine, seront réunis et les entraîneurs et équipes techniques des clubs de la MLS viendront les voir et viendront détecter ceux qui sont les meilleurs. Et donc, parmi ces joueurs qui ont été invités à la fois par la MLS et par les représentants des clubs, eh ben, il y en a qui vont être recrutés par les différents clubs. Donc, chacun recrutera à son tour de nouveau lors de la première étape de ce Super Draft, recrutera deux joueurs. Et là, contrairement au repêchage dont on a parlé il y a 2-3 minutes, l'Impact sera en tête de liste. Donc, c'est lui qui va pouvoir choisir les meilleurs, en tout cas le meilleur joueur universitaire, en tout cas le meilleur à ses yeux. Donc, ça peut être un avantage et ça peut être un choix intéressant à court terme ou à moyen ou long terme, s'ils pensent que le joueur n'est pas tout à fait prêt, mais qu'il le faut absolument dans l'équipe maintenant.
Voilà, et c'est là que les Whitecaps de Vancouver avaient fait l'acquisition d'Omar Salgado au tout premier choix de l'encan de 2011, c'était à Baltimore. Et c'est là aussi que des joueurs comme par exemple le petit Juaro Plata, qui a été pris en tout dernier rang pratiquement de ce repêchage par le Toronto FC, qui n'était pas parmi les joueurs... universitaire comme tel. D'ailleurs, le frère de Wayne Rooney aussi, qui avait été réclamé par les Red Bulls de New York, je crois que c'était au deuxième ou au troisième tour, là. Et c'est toujours très, très intéressant. Et ça aussi, ça se rapporte, encore une fois, là, désolé pour les gens à qui ça frise les oreilles de faire des comparatifs à d'autres sports, mais là, l'exercice s'y prête. Ça ressemble au repêchage annuel des joueurs amateurs en Ligue nationale de hockey ou en NFL au football. Ce qui est le cas cette année, c'est qu'il y a une modification, il n'y aura pas quatre rondes, donc un Joao Plata va entrer dans ce qu'on appelle le Supplemental Draft, qui est la quatrième et dernière étape de recrutement.
Et en fait, cette étape est assez simple, puisque c'est la suite du Super Draft, tout simplement. Donc, il y a deux tours, comme tu viens de le dire, au Super Draft. Donc, il y aura 38 joueurs qui vont être choisis au total, 19 équipes fois 2 joueurs. Et ensuite, lors du repêchage supplémentaire, comme on l'appelle, il y aura 4 tours, donc 76 joueurs encore qui vont être choisis par les différents clubs de MLS, tout simplement.
Et ça se fera quelques jours plus tard sous forme de conférence téléphonique. Bien, merci beaucoup, Mathias, de ces explications, ces éclaircissements, toujours appréciés. Et on se reparle la semaine prochaine.
À bientôt, tout le monde!
Ailleurs en MLS, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a annoncé lundi le congédiement de son entraîneur-chef Steve Nichol après 10 saisons à la barre de l'équipe. Ce serait un record de la MLS. Le Revolution qui a raté les séries éliminatoires cette année pour une deuxième année de suite. Mais entre 2002 et 2007, il ne faut pas oublier que cette équipe-là a été 6 fois de suite en finale de la Conférence de l'Est, a atteint la finale de la MLS Cup en 2002, 2005, 2006, 2007. Et donc, a été quand même aussi championne de la Coupe des États-Unis en 2007, ce qu'on appelle la US Open Cup en anglais. Et ils ont aussi remporté la Super Liga en 2008, un tournoi qui était disputé entre des équipes de la MLS et des équipes mexicaines. D'ailleurs, c'est la seule équipe de la MLS qui avait réussi cet exploit-là, un tournoi qui n'existe plus aujourd'hui, qui a cédé place en quelque sorte au niveau là, de l'importance donnée par la MLS à la Ligue des champions de la CONCACAF. Et d'ailleurs, c'est la première année en 4 années d'existence du nouveau format de compétition, qu'il y a 3 clubs de la MLS qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc, 3 des 8 équipes sont des équipes de la MLS. Il y avait 5 équipes de la MLS, rappelons-le, qui étaient de la phase de groupe. Le FC Dallas et les Rapids du Colorado qui ont plié bagage, mais il reste le Toronto FC, le Galaxy de Los Angeles et les Sounders de Seattle. Toronto qui jouera contre le club mexicain de Monterrey, Seattle contre le club mexicain de Pumas et le Galaxy de Los Angeles qui jouera, tiens, contre Santos Laguna. Alors, on sait que les clubs mexicains ont l'ascendant, où ils ont donc beaucoup de succès dans cette Ligue des champions de la CONCACAF. Voyons voir comment nos 3 équipes de la MLS se débrouilleront dans ces quarts de finale qui seront disputés au mois de mars 2012. Et la CONCACAF, qui a par ailleurs procédé au tirage au sort pour le tournoi de qualification olympique féminin qui aura lieu à Vancouver du 19 au 29 janvier. Dans le groupe A, mais on retrouve le Canada, hôte de la compétition, le Costa Rica, Cuba et Haïti. Alors que dans le groupe B, un peu plus corsé, les Américaines, le Mexique, le Guatemala et la République dominicaine. Le Canada, qui normalement ne devrait pas avoir de difficulté à terminer en tête du groupe A, jouerait en demi-finale contre l'équipe de 2e rang du groupe B. Alors, à moins d'une erreur de parcours des Américaines, ça devrait être le Mexique, comme prévu. Le Canada, donc, contre le Mexique en demi-finale. Si tout va comme prévu, bien sûr. Et à ce moment-là, bien, le gagnant de cette demi-finale-là accéderait aux Jeux de Londres qui, eux, auront lieu du 27 juillet au 12 août 2012. Pour analyser en plus en profondeur ce qui se passe avec l'équipe nationale féminine, on va aller rejoindre Sophie Drolet. Bonjour Sophie.
Bonjour Philippe.
Sophie, on a embauché John Erdman, on en a parlé il y a quelques semaines ensemble. On pensait que ce gars-là, justement, ce serait un gars qui ne ferait pas de vagues et je pense qu'on est bien servi jusqu'à date.
Oui, je pense que c'est ce que l'équipe nationale recherchait. Cherchait quelqu'un qui pouvait ramener la confiance dans l'équipe, mais aussi travailler en étroite collaboration avec l'association canadienne. Je pense qu'ils sont bien servis.
Pas de surprise jusqu'à date au niveau des résultats des Canadiennes au Paname. C'est pas mal. Évoque la galère.
Oui, mais on peut pas dire que c'est sûr que le match du Brésil est un match plus difficile, mais les autres matchs, c'était des matchs sur lesquels on devait voguer.
Et ça n'a pas été à la hauteur de tes attentes, si je comprends bien, là.
Quand tu à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein? Moi, je regarde ça comme étant des adversaires qu'on doit battre. C'est des bons matchs de préparation pour la CONCACAF, mais ce ne sont pas des grands adversaires.
Là, on parle bien sûr de l'Argentine et du Costa Rica. Est-ce que tu penses que les Canadiennes ont ce qu'il faut après ce qu'elles ont vécu en Allemagne et là, le changement d'entraîneur pour faire un bon bout de chemin, là, demi-finale et finale possiblement?
On a vu que le tirage de la CONCACAF est sorti dernièrement. Donc, je pense que le chemin pour la CONCACAF est bien tracé. Maintenant, pour ce qui est des Panames, je considère que les matchs qui sont en train d'être joués présentement, ce sont des matchs de préparation, ce sont des matchs qui vont nous amener vers ce qu'on veut exactement, c'est-à-dire une qualification au niveau de la CONCACAF.
Marc Tougan nous parlait d'Amelia Petrangelo qui a été rappelée à la dernière minute et qui a marqué à son premier match. C'est une joueuse qui a une grosse réputation, ça.
Oui, c'est une bonne joueuse que j'ai vu jouer à quelques reprises ici au Québec. Elle vient de la région de Laval, puis c'est une joueuse pleine d'énergie, puis je pense que c'est une bonne addition au niveau de l'équipe nationale. C'est une joueuse qui peut bouillonner sur le terrain, si je pouvais m'exprimer comme ça, parce que c'est ce que j'appelle quelqu'un qui aime bien mettre son nez un peu partout, donc c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup au niveau de l'intensité.
Un nom à retenir. Donc, et en terminant, Sophie, j'aimerais t'amener sur ton terrain habituel, soit le soccer universitaire féminin. Ronald King, dans la presse, a fait un portrait sur l'équipe voisine à Montréal, ici, l'Université de Montréal, les Carabins qui n'ont pas perdu cette année et qui sont classés première au pays. Est-ce que tu les vois aller jusqu'au bout?
Je leur souhaite, mais je suis pas sûre qu'elles seront mieux préparées que les autres années. À mon avis, la Ligue universitaire cette année en féminin est probablement plus faible que dans les dernières années. Donc, je pense que l'équipe des Carabins, malgré leur succès, n'ont pas eu des matchs aussi intenses qu'ils auraient pu avoir dans les dernières années. Donc, je suis pas sûre qu'elles seront bien préparées pour les championnats canadiens si elles y parviennent.
Est-ce dire que le soccer féminin est en baisse de niveau au niveau de la qualité du jeu ou…
Je pense qu'au niveau de la Ligue universitaire, étant donné que ce sont des étudiantes, on a à chaque année le besoin de recruter. Et puis, il y a des années où c'est mieux que d'autres. Cette année, c'est probablement la première fois où tout le monde, en même temps, a perdu des gros joueurs et n'a pas réussi à recruter encore des joueurs pour les remplacer. Fait que je pense qu'on est un petit peu dans une transition, toutes les équipes, sauf l'équipe de l'Université de Montréal.
Merci beaucoup, Sophie. À la prochaine.
Merci, Philippe.
Et maintenant, pour notre volet international de l'émission, on va aller au Mexique, à Guadalajara, où rejoindre Marc Touga de la presse canadienne qui est là pour couvrir l'ensemble des Jeux panaméricains, mais notamment la première apparition officielle de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, John Erdman. Bonjour, Marc.
Salut, hola.
Alors, Marc, l'équipe canadienne a eu un bon départ dans ce tournoi des Jeux panaméricains.
Oui, c'est qualifié assez aisément. Ben, ça n'a pas été joli tout le temps. Le premier match contre le Costa Rica, il a été remporté 3-1. Mais c'était un match de rodage, on peut dire. Mais ensuite, ils ont battu l'Argentine 1-0. Ensuite, ils se sont retrouvés dans un match contre le Brésil 0-0 qui n'avait aucun enjeu. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les demi-finales. Ça s'est décidé au tirage au sort que le Canada affronterait la Colombie en demi-finale, et le Brésil, le Mexique. Donc, une première semaine sans bavure. John Erdman a très bien géré ses joueurs. Christine Sinclair n'a pas été partante dans le dernier match, par exemple. Il l'a fait jouer comme substitut. Donc, il a bien dosé les efforts de ses vétérans. Il a bien su utiliser les jeunes joueurs qu'il avait à sa disposition. Il y en a quatre de l'équipe U20 qui sont présentement à Guadalajara, dont Vanessa Legault-Cordisco et Amelia Pietrangelo des Comètes de Laval. Amelia qui a compté un but à sa première apparition. Elle a été rappelée 24 heures plus tôt d'urgence à cause d'une blessure à Melanie Booth. Elle a marqué un but comme substitut. Elle a été partante les deux matchs suivants. Donc, les jeunes ont joué en masse. Bonne impression de John Erdman jusqu'à maintenant. Ça a l'air d'un gars très gentil, affable. Il a l'air d'avoir la bonne attitude pour coacher des filles. Ça a l'air un petit peu, ça serait, je dirais, plus un juste milieu par rapport à Carolina Morace. Peut-être un bon antidote, si on peut dire. On a parlé de la semaine passée à quel point ça va mal finir avec Morace. Ça va être plus le genre qui va jouer la game, si on peut dire, avec l'association canadienne. Il ne s'amusera pas à en demander trop, à demander des choses impossibles. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui cette semaine. Il pense déjà à la Coupe du Monde de 2015. Il pense déjà après la Coupe du Monde 2015 qu'il est déjà au fait qu'après la Coupe du Monde 2015, la majorité des joueuses vont avoir plus que 30 ans. Donc, il pense déjà à l'avenir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour s'assurer que la relève soit là et soit prête à prendre la relève, justement, étant donné que l'infrastructure au Canada du côté féminin n'est pas si présente que ça. Donc, il se décrit plus comme un directeur technique qu'un coach. Donc, il y a une vision vraiment large du portrait du soccer féminin. Puis pour ce tournoi-là, il voit vraiment ça comme une préparation pour préparer la qualification olympique en janvier à Vancouver.
Bon, tu es à l'autre bout du continent, mais je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de te parler de cette élection qu'il y a eu au Québec. Un résultat un peu surprenant, je dois l'avouer, parce que j'attendais une victoire de Francis Millien et c'est Martial Prudhomme qui a été élu président de la Fédération de soccer du Québec.
Puis même à ce bout-ci du continent, moi j'étais très curieux. J'ai même posé la question sur Twitter pour demander. Je voulais que les gens m'informent parce que j'étais très curieux de savoir le résultat. Parce que je savais que c'était pas. Je m'attendais à une victoire de Francis, mais je savais que c'était pas nécessairement dans la poche. Puis effectivement, le résultat nous a donné raison. Que c'est une surprise, oui et non, dans la mesure où on peut attribuer ce résultat-là à deux choses. Justement, la longévité de Francis Mignon dans le milieu du soccer fait que peut-être il y a beaucoup de gens qui ont voté contre lui, ou surtout contre peut-être le long règne de Dino Madonis et aussi dans une certaine mesure Brigitte Froh. Francis est beaucoup identifié à ce groupe-là, à ce groupe-là justement. Aussi, dans le deuxième point, ce serait que Martial Prudhomme a proposé aux régions que, lui, sa proposition, c'était que les régions sont maintenant assez adultes pour se gérer elles-mêmes. Donc, c'est vraiment une démocratie égalitaire qui propose le pouvoir aux régions. Donc, c'est très attrayant comme position.
Est-ce que tu l'achètes, cette proposition-là?
Bien, il faut donner la chance aux coureurs. Je ne connais pas assez Martial Prudhomme pour savoir si c'est par opportunisme ou s'il est vraiment sincère. Je l'ai rencontré quand j'ai parlé avant les élections pour le dossier dans Québec Soccer. Je suis allé à son bureau le rencontrer. Je pense qu'il est sincère. C'est juste question de savoir si les associations régionales maintenant vont jouer dans le même registre et agir en adulte. Moi, l'image qui me vient, c'est peut-être comme à bras raccourcis avec les Gaulois. C'est pas toujours facile à gérer ces Gaulois quand ils sont entre eux. J'ai peur que ce soit la cacophonie. J'espère quand même que M. Prudhomme va gagner son pari et que les régions sont vraiment assez adultes pour se gérer elles-mêmes. J'espère qu'on n'a pas juste voté pour lui par opportunisme pour gagner le pouvoir et penser qu'on va contrôler la FED comme ça. Francis, quand même, il avait quand même offert, lui, il était prêt à écouter les régions tout en offrant un leadership fort. Sauf que peut-être les gens, il y a tellement, comme j'ai dit tantôt, il y a tellement eu, ça fait tellement longtemps qu'il est dans le soccer, Francis, qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le soccer en 86, en 1986, avec la Ligue nationale de soccer du Québec, c'était Pascal Ciferelli qui était le président. À ce moment-là, ça venait jouer un peu dans les plates-bandes de la région Concordia, qui était gérée par Dino Benonis et Francis Mignon. Et je sais que du point de vue de la Ligue nationale, Francis et Dino étaient vus comme les gros méchants loups. Il essayait de tirer les clubs montréalais qui étaient dans la Ligue nationale, se faisaient tirer des deux côtés. Ils se faisaient tirer d'un bord par la région Concordia, de l'autre bord par les obligations envers la Ligue nationale. Donc, c'était la tension entre les deux clans. Au fil des ans, on a appris à les connaître un peu mieux. C'est plus aussi noir et blanc, on voit plus de gris. Moi, j'ai longtemps été d'avis que ça prend des gens comme ça, surtout au niveau national et international, pour bien gérer les choses, pour faire du lobbying, on sait qu'à la FIFA, c'est pas des saints. C'est des gens, on sait comment ils sont. Donc, ça prend des gens qui savent comment manœuvrer là-dedans. Puis Francis Mignon, Dino Madonis, c'était des gens capables de faire ça. Donc, on s'en va dans un autre registre complètement maintenant.
Mais Francis, qui va rester impliqué, je lui ai parlé plus tôt aujourd'hui, il va rester impliqué comme responsable du comité pour la Coupe du Monde de 2014-2015. Alors, il va toujours être dans les alentours du soccer. Ne pensez pas que Francis Mignon va disparaître pour autant.
Non, ça, c'est une bonne chose parce qu'évidemment, la Coupe du Monde U20 qu'il y a eu il y a quelques années, c'était lui qui a été l'animateur de ça. Puis derrière, lui et son groupe, derrière le succès de la Coupe du Monde U20.
Marc, profite bien de ta fin de séjour au Mexique et tu peux laisser ta crème solaire là-bas quand tu reviens parce que tu n'en auras pas trop de besoin ici.
De toute façon, je passe beaucoup de temps à la piscine puis au stade OmniLive de soccer. C'est à moitié couvert à l'ombre, les matchs en après-midi. Ça me fait penser au stade olympique. J'ai eu des flashbacks du Manic la semaine dernière quand je suis allé au match. Donc, pas de coup de soleil pour l'instant.
Excellent. Salut bien, Marc, à la semaine prochaine. Certains diront qu'on a gardé le meilleur pour la fin, puisque je m'entretiendrai maintenant avec le nouveau président élu de la Fédération de soccer du Québec, M. Martial Prudhomme. Bonsoir.
Bonsoir.
M. Prudhomme, ça devait être un moment spécial à vivre comme être humain, tout simplement, d'être reconnu par ses pairs pour diriger une fédération qui, ma foi, est fort importante dans le paysage sportif québécois.
Oui, effectivement, une fédération qui a un groupe à 190 000, 200 000 joueurs, membres. Et à la suite d'une présidence prolongée de M. Madonis, c'est tout un événement. Et la Fédé n'avait pas connu ce genre de campagne à la présidence depuis presque 20 ans, depuis les années 92-93.
C'est trop long à votre avis?
Ben, il y avait eu quand même un certain nombre de présidents en route, mais comme campagne, là, entre deux candidats, là, c'est pas fréquent.
Est-ce que c'est bon, ça, pour la fédération, justement, à vos yeux, là, qu'il y ait un changement de la garde, justement, après un certain temps?
Moi, je souhaiterais, par exemple, faire deux mandats, style 4 ans, et de pouvoir laisser ma place à un autre, pour renouveler, justement, l'organisation, avoir des nouvelles idées, tout ça, là, et moi, je pense que c'est simple pour n'importe quelle organisation, autant sans but lucratif, autant sportive qu'organisationnelle.
Est-ce que c'est quelque chose que vous allez chercher à faire entrer dans les statuts et règlements de la fédération, par exemple, pour que ça reste comme ça?
Oui, il y a un comité qui travaille sur la gouvernance de la fédération depuis presque un an. Et je m'attendrais à ce que ce comité-là puisse accoucher de ce genre de recommandations-là, qu'on puisse intégrer au statut et règlement, effectivement.
Vous avez fait une campagne, et corrigez-moi si je me trompe, sur, en gros, offrir le pouvoir aux régions. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous faites cette déclaration-là?
Oui, ça peut faire peur un peu, ce genre de résumé-là, là, donner le pouvoir aux régions. On a tous un peu le pouvoir, mais je dirais que si on pouvait... au niveau de l'exécutif, au niveau de la permanence de la Fédé, informer davantage les régions pour qu'eux puissent informer davantage les clubs. Et c'est bien plus facile comprendre les décisions qui sont prises ou comprendre les nouveaux programmes quand on est impliqué dans son élaboration. Et c'est ça que j'aimerais faire, c'est de pouvoir, en cours de route, en donner un peu plus d'informations pour que les gens se sentent complices, partenaires, finalement, de ce qui va être décidé plus tard. Donc, le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir d'information. Que chacun ait plus. On voudrait que les régions, les 18 au Québec, puissent être le partenaire de la fédération provinciale, puissent être les complices, puissent être les vendeurs internes à chacun de ces clubs pour pouvoir convaincre, expliquer et connaître davantage les besoins de la base pour les remonter en haut et avoir des programmes plus personnalisés, finalement, qui va répondre plus aux besoins.
Comment vous voyez le soccer québécois dans 4 ans au terme d'un premier mandat et possiblement même dans 8 ans? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qui prennent place, là, concrètement?
Moi, ce que j'aimerais, c'est, sur le plan technique, avoir un programme un peu plus précis, un peu plus rigoureux de nos jeunes à partir de 4 ans, 5 ans. Et je voudrais qu'à 10 ans, que nos membres, nos joueurs puissent savoir faire des choses de façon automatique, de façon... simple. Et alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu laissé au bon vouloir, à la bonne volonté. Au fond, il faudrait que ce soit comme une école de formation au niveau du sport. Et ça, il faudrait qu'on développe des programmes là, qui soient disponibles à nos bénévoles qui sont impliqués là, pour nos jeunes dès l'âge de 4 ans. Et ça, dans ce sens-là, c'est un volet qu'on n'a pas beaucoup parlé dans le passé. Au fond, ce qui fait la force de la fédération, c'est les joueurs, oui, mais c'est d'abord les bénévoles impliqués. Quand on demande à un parent souvent, hein, c'est pas des jeunes ados là, qui viennent coacher des débutants en soccer, mais on demande à un parent de venir donner son temps pour coacher une équipe, mais qu'est-ce qu'on lui donne comme outil? Et qu'est-ce qu'on lui donne comme objectif de rendement ou d'objectif de réalisation après un été, après un an? On voudrait que le jeune, il faut qu'on définisse clairement ce que le jeune devrait savoir faire après 6 mois ou après un an de participation à ce sport-là. Et si on donne des outils comme ça aux bénévoles, ben ça va nous être beaucoup plus facile d'en recruter des bénévoles, justement, parce qu'on leur offre des outils, un support. Et c'est pas juste des chandails et des ballons. Et donc, dans ce sens-là, si on faisait ça, moi, je pense que dans 10 ans, on va avoir des jeunes qui vont être sur l'équipe provinciale ou l'équipe nationale, puis éventuellement être un peu plus, disons, présents sur le point de vue mondial, parce que nos jeunes, ils vont avoir appris des choses de base plus vite. Ça, c'est notre contribution aux équipes professionnelles, puis ça, c'est notre contribution aux équipes nationales.
Monsieur Prudhomme, nouveau président élu de la Fédération de soccer du Québec, comment vous voyez le rôle du Québec, justement, sur la scène nationale maintenant que vous êtes président de la Fédération?
Je pense qu'au point de vue développement des joueurs, développement de nos élites, on fait un bon bout de chemin. Puis j'écoute les commentaires de ceux qui ont des contacts avec au niveau canadien. Sur le plan technique, on est en avance. Au niveau de nos programmes, on est en avance sur beaucoup d'autres provinces. Et dans ce sens-là, si on pouvait influencer, si on pouvait partager ces connaissances-là, puis ces expériences-là, puis ces résultats-là, ben, je pense qu'au niveau canadien, on apporterait quelque chose de très, très positif. Et dans ce sens-là, ce que je voudrais peut-être, ce que je souhaiterais aux Québécois, à nos équipes techniques et arbitrage, de pouvoir développer des jeunes qui soient capables de faire partie de ces équipes-là, et surtout des coachs, des responsables au niveau des arbitres assez seniors, assez gradués, pour pouvoir justement avoir un rôle plus présent au niveau canadien. C'est sûr qu'avoir des coachs des équipes nationales qui viennent du Québec, ça aiderait aussi les joueurs du Québec à y participer davantage.
En terminant, la relation entre la Fédération de soccer du Québec puis l'Impact de Montréal a toujours été, en tout cas du moins des années que je suis soccer, là, depuis 1998, relation d'amour-haine. Comment vous voyez votre rôle dans les relations à venir entre la Fédération de soccer et l'Impact de Montréal?
Moi je verrais une relation de partenaire. Je pense que M. Madonis et les prédécesseurs voyaient ça aussi, mais des fois, c'était pas toujours interprété de la même façon. Mais on a une contribution à faire pour développer les jeunes jusqu'à 14 ans, 15 ans, là, maintenant que l'Impact a une académie. Donc, plus les jeunes, plus l'académie ou l'Impact va avoir de la difficulté à choisir les joueurs au Québec, ça voudrait dire qu'on va refaire notre travail au préalable. Et donc, on peut contribuer à avoir une équipe professionnelle performante si nous aussi on fait notre travail à la base. Et dans ce sens-là, on a besoin d'une équipe professionnelle. On souhaite qu'elle réussisse à la MLS. Moi, j'ai des billets de l'Impact depuis le début et je suis content de voir des belles performances. Puis je souhaite qu'à la MLS, qu'on puisse passer au travers, qu'on puisse faire un bon départ. Mais ça, c'est pas facile. Mais si on pouvait nous contribuer en préparant les jeunes puis la relève à ces joueurs-là, et au lieu d'aller en Europe, comme on a eu de nos joueurs dans les années passées qui sont allés se développer dans ce secteur-là, ben ils pourraient y aller comme ils pourraient aller au niveau de la MLS. Et là, je pense qu'on va être encore plus performant que tout le monde. Donc, il faut collaborer, il faut être des partenaires là-dedans.
Monsieur Prudhomme, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bonne chance dans vos nouvelles responsabilités.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir. C'était Martial Prudhomme, nouveau président élu de la Fédération de soccer du Québec. TSN fait du travail incroyable de couverture des séries éliminatoires de la MLS. Il y aura des matchs qui seront disponibles également sur RDS2. Le 26 mercredi, donc à 21h, première ronde éliminatoire, les Red Bulls de New York contre Dallas, c'est à voir, je vous le conseille. Jeudi, 22h, toujours sur TSN2, première ronde éliminatoire, Columbus contre le Colorado. Samedi, à 17h30, c'est un match de la Premier League, Chelsea contre Arsenal. Arsenal a 3 victoires de suite alors que Chelsea a perdu son dernier match. Samedi à 19h30 et à 21h30, on aura les demi-finales de l'Est qui vont impliquer le Sporting de Kansas City. Et dimanche à 19h, on aura le match de demi-finale soit de conférence entre Houston contre Philadelphie dans l'Est ou la demi-finale de l'Ouest impliquant le Galaxy de Los Angeles. Donc, qui sera aussi disponible à RDS2 en passant à 21h. Alors, surveillez vos guides horaires pour savoir quels matchs seront à l'antenne, mais ce sont les heures prévues aux cases horaires. Du côté de Sportsnet, il y a 2 matchs de la Première Ligue anglaise à suivre. À samedi à 9h30, Sunderland qui joue contre Aston Villa et à midi, West Bromwich contre Liverpool. Goal TV nous propose 4 matchs de la D1 espagnole. Mardi à 13h55, Barcelone contre Granada, suivi à 15h50 de la rencontre entre Séville et le Racing de Santander. Mercredi à 15h50, toujours heure de l'Est, les heures que je vous mentionne en passant, on verra le Real Madrid contre Villarreal. Puis jeudi à 15h50, ce sera l'Atlético Bilbao contre l'Atlético Madrid. Samedi midi, du côté de RDS, il y a un match de la Premier League à confirmer, du moins les adversaires. Et à samedi matin à 7h30, aussi un match de la Premier League à RDS2, et je répète encore une fois, dimanche, à compter de 21h heure de l'Est, un match des séries éliminatoires de la MLS. TV5 qui va nous présenter également les activités du championnat de France à compter de 12h55, 14h aussi, il y a un match à l'antenne de TV5. C'est tout pour cette semaine. Je remercie Marc Touga, Mathias Van Alst, Yvan Delia La Victoire, Sophie Drolette, ainsi que Raphaël Laroxir aux manchettes et aussi à la rédaction, et mes invités cette semaine, André Hainaut, du Dynamo de Houston ainsi que Martial Prudhomme, nouveau président de la Fédération de soccer du Québec. Je vous rappelle que cette balado-diffusion ainsi que toutes les éditions précédentes sont disponibles sur l'iTunes Store. Alors, vous pouvez donc vous y abonner et l'écouter sur votre téléphone intelligent ou encore sur un lecteur MP3 qui a accès à iTunes. Il est aussi disponible sur le http://lesoccerplus.wordpress.com et je vous invite d'ailleurs à y laisser vos commentaires sur ce site web. Ça fait toujours plaisir de les lire. Et bien sûr, cette balado-diffusion, elle est pour vous. Alors, on tente toujours de l'amener là où vous désirez l'avoir. Je vous invite tout de suite pour la 6e édition, la semaine prochaine, alors qu'on parlera du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. On suivra le progrès des équipes en séries éliminatoires de la MLS et bien sûr, le parcours de l'équipe canadienne féminine aux Jeux Panam. Mon nom est Philippe Germain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette balado-diffusion qu'on a eu à la préparer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous rappelle que plus il y a de foot, plus on rit.